Oui, je disais, je ne sais pas comment vous avez vécu de cette première partie des chants, mais j'ai retenu dans la première partie de ces chants quelque chose qui était important. Il a été parlé de ruisseaux, il a été parlé de torrents, il a été parlé de beaucoup d'eau. Et ce matin, ce que je voudrais partager avec vous, ça va être de l'eau. Oui, de l'eau. Alors, c'est un passage qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, c'est dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel se trouve après Jérémie. Et c'est le chapitre 47, versets 1 à 5. Voilà ce qu'il est dit. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors, jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulée du côté droit. Je crois que je vais venir là, parce que pour le lire, hein, j'ai beau regarder travers. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées, et il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. C'est un passage d'Ézéchiel qui nous révèle déjà l'amour de Dieu et qui veut entraîner à sa suite ses enfants. Je relis le verset. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. Dans ce verset, il y a deux, même trois éléments importants que nous pouvons voir ensemble. Le premier, dans le fait qu'il a ramené Ézéchiel vers la porte. Nous savons combien celle-ci est importante dans l'Évangile. Le Seigneur dit, je suis la porte, et nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Cette porte, aujourd'hui encore, elle est ouverte. Elle est ouverte surtout à cause de la grâce de Dieu, mais un jour, elle sera fermée. Dans la lettre adressée à l'église de Philadelphie, cette lettre commence ainsi. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Deuxième élément, c'est l'exposition de la maison et la porte à l'Orient. Pourquoi l'Orient? L'Orient nous parle toujours d'antériorité. Il suffit de voir la généalogie du Seigneur Jésus qui nous ramène toujours au commencement. Combien nous avons besoin dans notre vie chrétienne de revenir en arrière? Pas pour se lamenter, mais se réjouir de voir comment le Seigneur a été bonne tout le long de notre vie spirituelle. Le troisième élément, et qui va se révéler capital, c'est l'eau qui jaillit sous le seuil de la maison. L'évangile de Jean relate cette rencontre au puits de Sichar entre Jésus et cette femme samaritaine. C'est un passage, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais mérite d'être lu et d'être relu, et même relu encore. Et vous allez découvrir qu'à travers cette rencontre, il y a un message merveilleux. La rencontre va se faire quelque chose que cette femme samaritaine, qui jamais aurait pu penser qu'un jour elle allait rencontrer le Messie, mais c'est dans un dialogue qu'elle va établir entre elle et Jésus, elle va comprendre que Jésus est le Messie. Le Seigneur va commencer par une prière. Il va lui demander de l'eau. Et vous savez, en Orient, l'eau, c'est quelque chose qui est vital, d'ailleurs, même pour nous, hein. Mais là-bas encore plus parce que c'est pas quelque chose qui est abondant. Et elle répond, comment toi, qui es juif, tu demandes à boire à moi qui suis samaritaine? C'était déjà le fait parce que c'était une femme. À l'époque, une femme ne s'adressait pas à l'homme. Deuxièmement, il y avait un conflit permanent entre les juifs et les samaritains. Et Jésus va lui dire, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te demande à boire, tu lui aurais même toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle répond, naturellement, mais tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. Comment pourrais-tu me donner de l'eau? Jésus va lui répondre, quiconque boira de cette eau, l'eau de ce puits, aura toujours soif. Mais la source d'eau vive que je lui donne, elle ira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, donne-moi cette eau. Et si vous continuez la lecture de ce passage, vous allez voir que le dialogue n'est pas arrêté là, il continue. Et jusqu'au moment où elle comprend que Jésus est le Messie. Et cette femme va être délivrée de cette manière de vivre qui était la sienne, de vivre en recluse. L'eau symbolise dans la vie spirituelle plusieurs choses. La purification de l'âme, le Saint-Esprit, entre autres. On comprend pourquoi Jésus invite ses contemporains à venir à lui. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tient debout et il va s'écrier. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il disait ceci en parlant du Saint-Esprit qui allait être donné. Vous avez ce passage dans l'Évangile de Jean, au chapitre 7, verset 37-39. À partir du verset 3 jusqu'au verset 5, ici, nous allons voir quatre étapes de progression qui vont nous amener jusqu'à la plénitude de Dieu. Verset 3. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées, ce qui est à peu près 500 mètres, parce qu'il y a plusieurs coudées, il y a 45 centimètres, 50 centimètres. Donc, on prend ça en 50, ça fait 500 mètres. Et il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Les chevilles nous parlent de l'équilibre et combien il est important que dans notre vie soit vécu dans l'équilibre de Dieu. Nous étions par le passé dans le déséquilibre du péché, avec toutes les conséquences que cela a entraînées. Nous étions comme cet homme de Gadara, qui était lui, par contre, sous l'emprise de plusieurs démons, rejeté par les gens, vivant au milieu des tombes. Il ne portait aucun vêtement. Il était dans une forme de violence telle que même les liens et les fers qu'on lui mettait étaient rompus par sa grande force. Au contact de Jésus, cet homme fut délivré totalement, non seulement des démons, et les habitants, quand ils l'ont vu, ils ont été surpris. Surpris de le voir au pied de Jésus, vêtu, dans son bon sens ou dans son équilibre. Le verset 4, ici, nous dit qu'il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. On voit une progression. Les genoux, eux, nous parlent de la prière. La prière. Nous savons combien cela est important pour nous. Petite parenthèse. La santé de l'Église. Je dis bien la santé de l'Église se voit à la prière. Je ferme la parenthèse. C'est Paul qui, dans ses écrits, nous invite à prier sans cesse. Et le Seigneur Jésus a donné aussi des instructions pour la prière. J'ai relevé simplement une prière particulière, mais il y en a tellement que on ne va pas toutes les relever, mais c'est la prière de Anne. Voilà une femme qui était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et en plus, l'autre femme l'a persécutée du fait qu'elle avait des enfants. Et que Anne ne pouvait pas l'avoir. Et c'était une tragédie à l'époque quand une femme ne pouvait pas enfanter. Et là, il nous est dit que elle a été au temple. Elle a prié, pleuré. Et a compté sur la compassion de Dieu. Et là, une parole de Dieu lui est donnée. L'année prochaine, en la même période, tu enfanteras. Il est dit que dès qu'elle entendit cette parole, son visage changea et elle mangea pour reprendre des forces. Oui, quand Dieu donne une parole, qui que nous soyons, mais quand cette parole vient de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Et ce qu'on a besoin, c'est d'être attentif à la voix de Dieu. Être attentif quand Dieu nous parle. Et combien de fois il nous a parlé? Et combien de fois nous avons fait le sourd? Mais quand Dieu parle, croyez-moi, c'est jamais une parole qui revient à lui sans un effet. Au contraire, il veut que nous puissions saisir cette parole et la faire nôtre. Vous savez, quand Dieu fait une promesse, si vous la prenez et vous dites « Je me tiens à cette promesse parce qu'elle vient de Dieu », vous la verrez s'accomplir. La suite du verset 4 de ce passage nous dit que « Il mesura encore 1000 coudées et là, il me fit traverser encore. Et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. » Vous voyez, toujours progression. Les reins représentent le siège de l'intelligence, là où la parole de Dieu peut s'imprimer pour que nous devenions des lettres vivantes. C'est Paul qui dit ça, hein. Nous sommes des lettres vivantes. Si nous avons reçu Jésus comme Seigneur de notre vie, nous devenons participants de son œuvre. Ce qui veut dire que nous sommes des lettres vivantes. Ce qui veut dire que tout œil peut voir à travers nous que nous sommes des êtres renouvelés et différents. Amen. Et oui, c'est ça. Nous sommes différents. Paul aux Éphésiens disait « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Et l'apôtre Pierre dira derrière encore, « C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière persévérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Et l'évangile de Luc va dire « Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à les hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître attend, que le maître à son arrivée trouvera veillant. » Le verset 5, il mesura encore 1000 coudées. La persévérance. Vous savez ce que c'est la persévérance? Avec Dieu, on a besoin de persévérer dans sa parole. Et croyez-moi, quand Dieu dit « fais ceci » et quand Dieu dit « fais toujours ceci », si nous sommes obéissants et si nous mettons en pratique ce que nous avons reçu, ben, nous verrons. Et là, il est dit que c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était profonde et qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Ici, le torrent, et c'est pour ça que je vous ai remarqué que ce matin, il a été parlé du torrent, du ruisseau. Donc, vous voyez, quand l'Esprit parle, vous voyez, à travers les champs, voilà. Des sœurs qui ont été conduites à travers ces champs. C'est l'Esprit qui leur a parlé. C'est l'Esprit qui les a conduites à chanter ces chants, qui parlaient de l'eau, des torrents, de l'eau. Et c'est important. Dans le torrent, nous parle de plénitude, de force, de puissance, mais aussi de vie abondante. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu, à l'ombre de tes ailes. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Tu les abreuves au torrent de tes délices, car auprès de toi est la source de la vie. Et par ta lumière, nous voyons la lumière. C'est le psaume 36 qui dit ça. Le torrent de Dieu, c'est le lieu de la révélation aussi. Mais attention. Danger si vous allez au torrent du monde, qui est le lieu de la destruction. Et combien on a besoin de revenir toujours au pied du Seigneur, auprès de celui qui peut nous abreuver, celui que la rivière d'eau est toujours pleine. Vous savez, dans la Bible, dans les évangiles, il y a beaucoup de paraboles, et ce sont toujours des paraboles qui font la séparation de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et la parabole que j'ai relevée, qui m'a paru assez révélatrice par rapport à ce passage, c'est la parabole des deux maisons. Une est construite sur le roc séculaire, la seconde sur le sable. Apparemment, quand vous regardez les deux constructions, il n'y a rien qui sépare. Le même format, les mêmes matériaux sont là. La différence, elle va se faire quand le torrent de l'eau va venir sur les maisons. Il nous a dit que celle sur le sable est balayée. Plus rien. Mais celle qui est sur le roc, elle ne bouge pas. Vous savez, et là je parle aux chrétiens, et quand je dis je parle aux chrétiens, je me parle à moi aussi, bien sûr. Nous ne nous trouvons pas dans le cortège de ceux qui diront « Seigneur, Seigneur ». Est-ce qu'en ton nom, on n'a pas prophétisé? Est-ce qu'en ton nom, on n'a pas chassé des démons? Est-ce qu'en ton nom, on n'a pas fait beaucoup de miracles? Jésus répondra, je vous le dis ouvertement, je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous savez, cette parole, elle n'est pas pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Elle est pour nous. Alors, je ne sais pas comment il faut l'apprendre, mais je me dis, c'est un avertissement. Et moi, je le prends pour moi, déjà. En tout cas, pour revenir au passage d'Ézéchiel, on voit qu'entre ces quatre marches dans l'eau, hein, on peut penser que c'est une forme de croissance. Croissance spirituelle normale qui atteint chaque enfant de Dieu. On n'a pas lu les versets qui suivent ce passage-là, mais ce qui était intéressant, mais ça aurait été trop long. Mais on lui dit à Ézéchiel, regarde, regarde. Et il est important de regarder, et pas regarder n'importe quoi. Et on va s'apercevoir que ce fameux torrent, qui est difficile à nager, parce que c'est un torrent, va se jeter dans un endroit qu'on appelle la mer morte. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller en Israël, si vous avez été à la mer morte. Avec mon épouse, on a eu l'occasion de pouvoir aller en Israël et on a été, bien sûr, à cette fameuse mer morte. Il n'y a aucune vie dans la mer morte. La vie n'existe pas du tout dans la mer morte. Et là, il est dit que le torrent se jette dans la mer morte. Et il est dit que là, dans cette mer morte, la vie reprend. Alors peut-être que ton cœur est mort ce matin. Ta vie est détruite. Tu n'as aucune espérance. Tu n'as plus rien sur quoi te reposer. Mais si le torrent de Dieu vient à toi, ouvre ton cœur et reçois-le pleinement dans ton cœur. Parce que là, quand Dieu intervient, là où il y avait la mort, c'est la vie qui prend le dessus. La croix est là. Vous allez me dire, mais Jésus est mort. Bien sûr qu'il est mort. Mais il est ressuscité. 3 jours après, la vie a manifesté sa toute-puissance. Là où la mort a été vaincue, c'est là. Nulle part ailleurs. Si vous voulez que la vie intervienne dans votre cœur, venez à la croix. Et là, je parle à tout le monde. On a besoin de revenir, même quand on est chrétien. Parce que des fois, on s'habitue trop. Et moi, personnellement, j'ai besoin de revenir à la croix. Parce que c'est là, au pied de Jésus, que je comprends que son amour est toujours aussi grand. Prions. Merci Seigneur, parce que à travers ce torrent, Seigneur, à travers cette vie qui s'est manifestée par ta toute puissance, nous pouvons nous approcher de toi, Seigneur, ce matin, et nous pouvons invoquer ton nom, afin que tu viennes dans notre vie, dans notre cœur, et que tu interviennes puissamment dans notre façon de comprendre les choses. Nous avons besoin d'être éclairés par ta parole, Seigneur. Et c'est là que se trouve la source de la vie. Alors je te prie vraiment pour chacune de nos vies, Seigneur. Parce que nous sommes tous dans le même besoin. Nous avons besoin, un besoin vital de saisir ce pardon, cet amour que tu donnes à chacun. Merci Seigneur de te glorifier et de manifester ta toute puissance au milieu de ton peuple. Amen.
Je partage avec vous les annonces. J'aimerais remercier avant le groupe de louanges, remercier aussi Georges pour ce qu'il nous a partagé. Voilà, je vous laisse découvrir les annonces à l'écran. Dimanche prochain, on a un culte particulier, comme tous les deuxièmes cultes de chaque mois, un culte découverte, un culte club d'enfants. Donc un culte qui est orienté plus pour partager l'évangile, pour la faire connaître aux autres aussi. Un culte qui généralement nous fait aussi du bien, qui nous permet de reposer aussi les bases de notre salut. Alors, encourageons-nous à inviter peut-être des amis, des connaissances, des voisins. C'est aussi important. Donc la partie pour les enfants, en début de culte, sera animée par Delphine Brabant, qui vient spécialement pour cette occasion. Voilà, on aura le plaisir de la revoir et d'écouter ou d'entendre ce qu'elle nous aura préparé. Le dimanche d'après, donc le 19, juste un petit rappel, c'est la sortie des écoles du dimanche. Voilà, à ne pas oublier. Le club d'été, il y a encore des flyers au fond. C'est encore temps pour faire des invitations. Prenez-en abondamment. J'ai le plaisir aussi de vous annoncer une bonne nouvelle. Voilà. Donc Julia Trottin est née jeudi matin, très tôt, vers 7h et quelques. Donc elle pesait 2,870 kg, mesurait 49 cm. Elle se porte bien, magnifiquement bien, les parents aussi. Imaginez aussi leur joie. Normalement, Anne-Laure sortait ce matin de l'hôpital de Saint-Julien. Donc voilà, une bénédiction. Merci aussi de prier pour eux, de prier pour elle, afin que sa vie soit au service de Dieu, soit une bénédiction aussi pour les autres. Mardi passé, on avait une rencontre de membres, entre autres pour parler de la répartition des dons. Et donc, il y a un don de 500 euros qui a été fait au camp des jeunes. Et donc, il y a une petite présentation qui nous présente ce travail. Oui. Voilà, c'est donc toute une organisation qui est à Saint-Lunaire. Saint-Lunaire, c'est en Bretagne Nord. Où il y a des activités de voile qui peuvent être faites, mais le centre de ce travail, c'est de faire connaître l'Évangile à des jeunes, à des moins jeunes. C'est toute une organisation, il y a des personnes qui travaillent à plein temps, il y a aussi beaucoup de bénévoles, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont au bénéfice de ce travail. Mathieu a beaucoup participé à l'encadrement, à l'élaboration des camps, aussi au maintien de la structure, de la propriété. Alors, il y a au fond de la salle, il y a quelques prospectus pour les activités qui se tiennent là-bas. Renseignez-vous. C'est vrai que Saint-Lunaire, on n'a pas l'habitude ici à l'église d'avoir des contacts, mais ma foi, c'est l'occasion peut-être d'en avoir. On connaît peut-être plus les camps de la JAB, qui sont aussi plus proches, avec lesquels on a d'autres contacts. Voilà, je vous laisse découvrir encore les dernières diapos. Donc, il y a quand même pas mal de personnel sur place et ils sont aussi soumis à des normes comme tout bâtiment qui reçoit du public. Et cette année, ils sont en train de construire une salle parce qu'ils ne peuvent plus avoir dans le même local la prise des repas et la tenue des réunions. Alors, ce n'est pas évident parce que, voilà, construire une nouvelle salle, 300 mètres carrés, c'est toute une infrastructure en plus. Et on peut aussi remettre ce sujet dans nos prières parce qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir terminer les travaux à temps avant les camps d'été. Donc, ils vont peut-être devoir encore jongler. Voilà, c'est encore un sujet de prière qu'on peut partager. Le camp des jeunes est situé à 2 km de la plage, donc c'est un endroit idéal aussi pour faire de la voile. Voilà, cette semaine, comme chaque semaine, on vous invite à prier pour un pays dans lequel il y a de la persécution. On vous invite cette semaine à prier pour les chrétiens qui sont en Jordanie et prier de façon plus générale pour ce pays. Pays qui est aussi proche d'Israël, pays qui est proche d'une région dans laquelle il y a des tensions, dans laquelle ce n'est pas forcément simple non plus d'être chrétien. Voilà, je ne crois pas qu'il y ait d'autres annonces à partager. Je vous invite à vous lever, je vous lis encore deux versets. Deux versets qui sont en Josué, Josué chapitre 1. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Amen. Bon dimanche, bonne semaine.